Christian Delorme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc prêtre ici au diocèse de Lyon, oui. Vous allez peut-être nous parler de l'origine peut-être de votre vocation.
C'est toujours difficile de parler de l'origine d'une vocation parce qu'il y a sans doute de multiples facteurs qui viennent jouer. Mais quand je fais retour un peu sur mon histoire, je suis né à Lyon en 1950 et j'ai grandi dans une famille de petite classe moyenne dans le quartier populaire de la Guillotière, à la frontière de ce qu'on appelle la place du Pont et qui est connue de l'autre côté de la Méditerranée comme étant le grand quartier d'immigration, de première immigration des Maghrébins, après beaucoup d'autres immigrations depuis le 19e siècle. Et ce qui fait que le monde maghrébin, et surtout algérien à Lyon, a fait partie de mon paysage humain dès mon enfance. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que mon enfance, elle coïncide avec la guerre d'Algérie. Et dans ce quartier, il y avait des retombées violentes de la guerre d'Algérie. Non seulement des manifestations, mais des règlements de compte entre les différents groupes indépendantistes. Il y avait aussi des affrontements avec les partisans de l'Algérie française. Il y avait des arrestations. Donc, enfant et après adolescent, j'ai été très très marqué, très sensible à cette expression de la violence. Et je peux dire que j'en ai acquis une détestation de la violence dès mes 10-11 ans, quoi. Et par bonheur, en même temps, il se passait d'autres événements dans le monde qui allaient dans le sens de trouver des chemins de guérison à cette violence des hommes, à cette violence du monde. En particulier, deux grands événements. Le combat non violent des Noirs américains autour de la figure de Martin Luther King. Et puis le Concile Vatican II. Martin Luther King, donc... son combat, c'est 1954-1968. Le Concile Vatican II, c'est 1962-1965. Et ces deux événements sont venus apporter une réponse à mon questionnement sur la violence. Je peux dire que Martin Luther King a été le héros de mon adolescence et d'une certaine manière, il est resté pour moi ma grande figure de référence. Figure spirituelle, figure intellectuelle aussi, et figure militante. Et puis, ce qui s'est passé avec le Concile Vatican II, c'est-à-dire cette grande réunion de tous les évêques du monde, à l'initiative d'abord du pape Jean XXIII, puis ensuite sous la conduite du pape Paul VI, m'a donné envie de m'engager moi aussi dans l'Église. Voilà. J'étais dans une famille chrétienne, mais pas une famille excessivement chrétienne. On allait à la messe tous les dimanches en famille, mais ce n'était pas une famille bigote, je dirais. Voilà. C'est une famille où le christianisme était proposé comme chemin de liberté et d'épanouissement. Pour moi, l'Église, dans sa conception la plus large, Martin Luther King était pasteur baptiste, moi j'étais dans une famille catholique, j'allais pas devenir baptiste pour autant, mais l'Église, comprise comme l'ensemble de ceux qui se réclament du Christ, eh bien est devenue pour moi le lieu où je me suis dit, ben là, je peux faire quelque chose de ma vie et être heureux. Et c'est comme cela que tout doucement, je me suis retrouvé prêtre.
Mais vous êtes aussi surtout beaucoup connu pour être le prêtre ami des musulmans. Donc ça, on va y revenir. Mais auparavant, je pense que vous avez des nouvelles missions dans le diocèse de Lyon, notamment en ce qui concerne le dialogue interreligieux.
Ça, c'est surtout l'aspect institutionnel. En fait, comme vous venez de le dire, depuis ma jeunesse, j'ai été amené à être en lien avec des croyants de foi différentes, avec des hommes et des femmes aux convictions très très diverses. Et actuellement, si je suis officiellement un délégué épiscopal, donc délégué par l'évêque, l'archevêque de Lyon, pour tout ce qui concerne les relations interreligieuses, c'est vraiment dans la continuité de ce que j'ai toujours vécu. J'ai été aussi, par le passé, sous d'autres archevêques, délégué pour les relations avec l'islam. Voilà. Surtout, ce que je peux dire, et c'est ma satisfaction, c'est d'avoir pu, depuis que je suis jeune, et depuis que je suis jeune prêtre, et ça commence à faire, parce que l'an prochain, il y aura 40 ans que je suis prêtre, c'est d'avoir pu vivre une certaine fidélité dans ses engagements, dans ses rencontres. Je vous parlais tout à l'heure de Martin Luther King, il renvoie aussi à Gandhi, et d'ailleurs, si j'ai découvert Martin Luther King à 14-15 ans, j'ai découvert Gandhi un peu plus tard, parce que je savais que c'était une des grandes références de Martin Luther King, quand j'avais 16-17 ans, et j'ai eu la chance de faire connaissance et de beaucoup fréquenter pendant plusieurs années un des premiers grands disciples français et chrétiens de Gandhi, qui était Lanza del Vasto. Donc ces hommes-là m'ont ouvert, avant même que je commence mon cheminement et ma formation pour devenir prêtre, ils m'ont ouvert au respect des autres croyants, au goût même de découvrir ce que pouvaient vivre intérieurement des croyants d'autrefois. Voilà, alors après je suis devenu prêtre, quand on est prêtre, eh bien on est au service d'une église, mais j'ai eu la chance d'avoir des archevêques qui ont toujours respecté mon propre itinéraire, si bien que tout en ayant eu des responsabilités de... On pourrait dire classique, ordinaire de prêtre, et notamment de prêtre de paroisse, de curé de paroisse, encore aujourd'hui. Une grande partie de mon temps a toujours été consacrée à cette rencontre avec des croyants d'autrefois. Et c'est vrai qu'avec le temps, parce que je me suis impliqué dans un certain nombre de combats en solidarité avec les immigrés, je me suis plus spécialisé, on va dire, dans ce qui ressort du dialogue islamo-chrétien.
Bon, dites-vous, vous êtes un prêtre ami des musulmans. Est-ce que cela vous a causé des torts, d'un côté comme de l'autre ?
Le fait que certains musulmans m'aient désigné comme étant le prêtre ami des musulmans, pour moi, c'est plutôt un honneur. Je suis touché parce que j'essaye de vivre cela. C'est-à-dire que ma relation à l'islam et aux musulmans, c'est pas d'abord une démarche intellectuelle, c'est la rencontre de gens. Et c'est être en situation de construire des histoires d'amitié avec des hommes, des femmes qui appartiennent à cette foi musulmane et de découvrir ce qui les fait vivre. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, j'ai un long parcours de compagnonnage avec des familles et des amis musulmans, principalement à Lyon, même si j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance-là. Mais c'est d'abord à Lyon, en France, que j'ai noué ces liens, et des liens vraiment dans la durée. Ce qui fait que pour moi, l'islam, c'est d'abord, mais je pourrais dire ça de toutes les religions en fait, une religion, c'est d'abord les gens qui la composent. Et pour moi, l'islam, ce sont d'abord des visages, ce sont des hommes et des femmes qui incarnent l'islam. Voilà. Et du même coup, on s'aperçoit que l'islam est extrêmement pluriel, comme le christianisme, comme l'hindouisme, comme le bouddhisme, etc. Parce que chacun s'approprie la foi qu'il a choisie ou qu'il a reçue en héritage, se l'approprie en lui donnant sa propre coloration.
Est-ce que on peut dire que vous êtes un orientaliste en chair, C-H-A-I-R-E?
C'est joli. Mon compagnonnage avec l'islam, comme je vous le disais, il se vit d'abord avec des gens, j'ai envie de dire, ordinaires. Mais aussi, j'ai eu cette chance de rencontrer un certain nombre d'intellectuels, de penseurs, et en particulier, depuis plus de 20 ans maintenant, de faire route commune avec Rachid Benzine, qui est un jeune islamologue d'origine marocaine, en région parisienne, avec qui nous avons une relation très très forte, et avec lequel je peux dire que nous sommes en communication, en relation tous les jours. J'ai suivi toute sa recherche, toute sa quête, et on a écrit des livres ensemble. Et vraiment ça, pour moi, c'est un grand bonheur, c'est-à-dire de pouvoir contribuer aussi à la construction d'une pensée nouvelle à l'intérieur même de l'islam. C'est une aventure merveilleuse. Alors, bien sûr, on n'est jamais les premiers, on est toujours héritiers, on a toujours une dette à l'égard des générations précédentes, de ceux qui nous ont précédés. Vous avez cité le professeur Louis Massignon. Louis Massignon, c'est certain, c'est la grande figure pionnière au XXe siècle du dialogue avec l'islam, puisque Louis Massignon, c'est ce grand orientaliste, ce grand spécialiste de l'islam, qui a été un savant, mais en plus, il a été un acteur de la découverte de l'islam pour les chrétiens. Et c'est en grande partie grâce à lui que le Concile Vatican II, en 1965, a publié, avec la déclaration Nostra Aetate, une déclaration qui porte un regard positif sur les musulmans, parce que Paul VI était ami de Louis Massignon. En même temps, Louis Massignon, aujourd'hui, même si son témoignage reste fondamental, puisqu'il il a ouvert une route énorme, la route du respect mutuel, de la rencontre, de la curiosité de l'autre, de la foi de l'autre, du goût de la foi de l'autre. En même temps, il est un peu dépassé parce que sa façon de concevoir les choses, notamment les parallèles qu'il tentait, par exemple, entre la Vierge Marie et Fatima, la fille du prophète, aujourd'hui, ça ne nous parle pas de la même manière, quoi. Pour moi, ma grande référence en matière de dialogue, c'est la figure de Christian de Chergé, le prieur assassiné des moines de Tibérine, hein, parce que je pense que lui, alors il est beaucoup plus contemporain, et bien entendu, puisque l'assassinat des moines de Tibérine, c'est 1996. Christian de Chergé, il ouvre une voie nouvelle dans laquelle moi je me situe complètement, c'est-à-dire que il prend le Coran en disant ce texte fait vivre depuis des siècles des millions et des centaines de millions de gens. Ils y trouvent là une nourriture spirituelle, donc il n'est pas pensable que ce texte ne soit pas un lieu de la rencontre de Dieu. Et le Christian de Chergé travaillait tous les jours sur le texte coranique, comme il travaillait bien sûr sur la Bible, faisant une espèce de lectio divina. Et ça, c'est une démarche spirituelle dans laquelle moi je me retrouve complètement.
Alors c'est bien qu'on parle donc du livre, le livre sacré des musulmans, le Coran. Donc vous êtes également dans cette démarche de lecture spirituelle de la Bible, du Coran, j'imagine d'autres textes sacrés. Mais alors, pour reparler du Coran, alors est-ce qu'il y a des traductions, qu'il y en a des préférées, vous allez nous donner votre avis là-dessus. Et surtout, quel crédit apportez-vous à ce texte sacré? Et est-ce pour vous la dernière révélation après la Bible?
Vous soulevez des questions énormes. Alors d'abord, sur la question des traductions, c'est terrible. En ce moment, je donne un cours en cinq soirées sur une introduction à la lecture du Coran. Et une fois de plus, je m'arrachais les derniers cheveux qui me restent avec cette problématique des traductions. On voit bien que une traduction, c'est toujours une trahison parce que, par exemple, je voyais hier la seule traduction en français ou interprétation en français de la première sourate du Coran, la Fatiha, donc cet hymne de louange qui ouvre le texte coranique. Eh bien, vous avez chez pourtant des arabisants indiscutables des traductions très très différentes. C'est absolument incroyable. Par exemple, le fait de mettre le mot maître à la place du mot roi, de mettre le mot allégeance à la place du mot jugement. Voilà. Quand on travaille sur un texte comme le Coran en étant non arabisant, il faut vraiment utiliser plusieurs traductions à la fois. Alors, quelles sont les meilleures traductions? Sans doute que personnellement, je crois que la traduction la plus satisfaisante, quand on veut travailler au plus près du texte, c'est la traduction de Mohamed Hamidullah, qui était un savant d'origine indienne, qui est mort aux États-Unis, mais qui a été longtemps en France, et qui a fait, dans les années 50, une traduction, d'ailleurs préfacée par Louis Massignon, et c'est très certainement celle qui est la plus proche du texte. Il y a une traduction qui est belle, parce que c'est très difficile quand on fait une traduction littérale, de rendre le génie poétique du texte coranique, la magie du verbe coranique. Alors il y a un érudit poète de surcroît qui a tenté cela, c'est Jean Grosjean, qui était un poète spécialiste de l'araméen, de l'arabe et de l'hébreu. Il a fait une traduction qui est très belle, mais qui est beaucoup moins littérale, mais qui rend le souffle. Voilà. Je dirais que c'est ces deux traductions qui, moi, me satisfont le plus. Il y a au moins trois traductions du Coran qui ont été faites à Lyon. Les deux dernières, c'est celle de Maurice Glotton, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il y avait eu avant Abdallah Dominique Penaud, et puis un professeur tunisien qui était à Lyon dans les années 1960-70, qui a aussi fait une traduction du Coran. Guédira, merci, bravo. Voilà, merci beaucoup.
Oui, donc vous, en tant que prêtre chrétien, donc, quel crédit apportez-vous à ce texte? Et est-ce pour vous la dernière révélation?
Je dirais, je pense que n'importe quelle personne qui se veut honnête et ne peut que reconnaître que le Coran fait partie des grands textes qui ont surgi dans l'humanité et qui ont la capacité de traverser les siècles et de nourrir la vie intérieure de centaines de millions de gens. Vous les comptez sur les doigts d'une main. On va prendre les Védas, qui sont les plus anciens textes religieux du monde. On va prendre la Bible, qui est cette collection de livres. On va prendre le Coran. Et puis, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Peut-être l'Iliade et l'Odyssée. Peut-être, on pourra rajouter les écrits de Lao Tzu. Voilà. Mais il y a très peu de textes, en fait, qui traversent comme ça les siècles et qui nourrissent les gens. Même les grandes œuvres littéraires, je sais pas, Victor Hugo, Chateaubriand, au bout d'un moment, s'épuisent parce que c'est trop daté au niveau de la composition. Voilà. Donc déjà, le Coran est un des grands textes spirituels de l'humanité. Et rien que par ce fait, même quand on n'est pas musulman, il mérite un infini respect. Ensuite, vous me demandez, est-ce que c'est la dernière révélation? Pour moi, qui suis chrétien, je n'ai pas la même conception de la révélation que les musulmans. Pour les chrétiens, la révélation, elle se fait dans l'histoire et elle n'est pas terminée, en ce sens que nous croyons toujours que l'Esprit de Dieu anime les gens, que Dieu continue de se faire connaître dans l'intériorité des gens et que dans la vie de l'Église, il se fait connaître, dans la vie du monde, il se fait connaître. Simplement, nous dirons que les textes canoniques du christianisme ont été arrêtés, c'est fait assez tardivement en fait, au 3e, 4e siècle de notre ère, et que depuis, on ne va pas en rajouter. Comme les musulmans d'ailleurs considèrent que avec la révélation coranique, avec l'énonciation du texte coranique, il ne peut plus y avoir de révélation supplémentaire. Personnellement, parce que je ne suis pas musulman, je ne vais pas dire que le Coran apporte une révélation nouvelle qui viendrait compléter la révélation apportée par le Christ. Je ne peux pas dire ça. Mais ce que je peux dire, c'est que le Coran, en tout cas c'est ma position, est une œuvre tout à fait singulière, qui nous aide à comprendre quelque chose de Dieu, qui n'est pas pour une grande partie de son texte en contradiction avec la Bible, et que ce Coran est pour des centaines de millions de gens un lieu de la rencontre de Dieu. Et pour moi, chrétien, de temps en temps, je vais visiter le texte coranique. Certains passages me sont hermétiques, d'autres sont de nature à me contrarier, en particulier lorsque il y a des aspects polémiques par rapport au christianisme. Mais la plupart du temps, je suis émerveillé par des textes qui manifeste la grandeur de l'œuvre de Dieu dans l'univers.
Oui, parce que, évidemment, vous êtes chrétien et vous dites que la différence fondamentale entre le christianisme et l'islam, c'est celle de l'histoire du salut, donc, pour les chrétiens, contre ou versus un retour à l'ordre des origines pour les musulmans, pour l'islam, pour le Coran.
Oui, on voit bien en effet qu'il y a une conception du temps qui est différente dans la conception judéo-chrétienne, là on peut dire judéo-chrétienne, parce que les juifs et les chrétiens ont la même approche, et dans la conception musulmane. En gros, quand vous prenez l'histoire du salut telle qu'elle se déploie dans les livres de la Bible, on pourrait dire depuis la création du monde jusqu'au livre de type apocalyptique qui essaye d'imaginer ce que peut être l'achèvement de l'histoire, eh bien il y a une progression. Et même si dans la Bible il est évoqué un paradis perdu, on ne reste pas dans la nostalgie de ce paradis perdu. Ce que nous dit la Bible, c'est que il faut avancer. Et ça revient en permanence, aussi bien pour Abraham, pour Moïse et même pour Jésus. Hein. Va, marche devant. On pourrait dire que le temps de l'histoire n'est pas une perte de temps. Que Dieu continue de se révéler et que Dieu conduit les hommes vers leur salut. Alors, dans la conception juive, l'espérance, c'est la terre promise. Et dans la conception chrétienne, l'espérance, c'est le royaume de Dieu, le royaume à venir, qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas une terre aussi matérielle que peut-être la terre promise des Juifs. Dans l'islam, on est dans la nostalgie, on est dans un temps circulaire, on n'est pas dans ce temps linéaire, on est dans la nostalgie du paradis perdu. Ce à quoi l'on espère, c'est au retour. D'ailleurs, le temps liturgique musulman, le temps des fêtes en témoigne, puisque, comme vous le savez, les fêtes musulmanes, le mois de Ramadan, reculent chaque année de 10 jours. Donc ça apporte une conception un peu différente du temps et du rapport au monde. C'est-à-dire que quand vous pensez que le temps de l'histoire est le temps du salut, eh bien ça vous fait porter un regard positif sur tout ce qui se passe. Si vous considérez qu'il faut revenir à ce qui a été perdu, le temps actuel est une perte de temps. La Bible raconte des histoires toujours situées, même si ce sont des constructions, même si ce n'est pas le temps de l'histoire scientifique. On situe à tel moment, s'est passé ceci, à tel endroit. Dans le Coran, jamais. C'est toujours un peu en apesanteur.